Lucien Leven, chapitre 59. Depuis le commencement de la session, le métier de Lucien était fort amusant. Monsieur Desramiers, le plus moral, le plus fénelonien des rédacteurs du journal ministériel par excellence, récemment nommé député à Escorbiac, dans le Midi, à une majorité de 2 voix, faisait une cour assidue au ministre et à madame la comtesse de Vèze. Sa morale, douce et conciliante, avait fait la conquête de M. de Vèze, et presque celle de Leven. « C'est un homme sans vue politique, » se disait celui-ci, « qui prétend concilier des choses incompatibles. Si les hommes étaient aussi bons qu'il les fait, la gendarmerie et les tribunaux seraient inutiles. Mais son erreur est celle d'un bon cœur. » Lucien le reçut donc très bien quand il vint, un matin, lui parler d'affaires. Après un préambule du plus beau style, et qui occuperait bien 8 pages s'il était transcrit ici, M. Desramiers exposa qu'il avait des devoirs bien pénibles attachés aux fonctions publiques. Par exemple, il se trouvait dans la nécessité morale la plus étroite de réclamer la destitution de M. Tourte, commis à cheval des droits réunis, dont le frère s'était opposé de la façon la plus scandaleuse à la nomination de lui, M. Desramiers. Cela même fut dit avec des précautions savantes qui furent fort utiles à Leven pour le préserver d'un rire fou qu'il avait saisi à la première appréhension. De Fénelon réclamant une destitution. Lucien s'amusa à répondre à M. Desramiers en son propre style. Il affecta de ne pas comprendre la question, saisit de quoi il s'agissait, et força barbarement le moderne Fénelon à demander la destitution d'un pauvre diable demi-artisan qui, moyennant un salaire de 1100 francs, vivait, lui, sa femme, sa belle-mère et 5 enfants. Quand il eut assez joui de l'embarras de M. Desramiers, que le manque d'intelligence de Leven força à employer les façons de parler les plus claires, et par là les plus odieuses et les plus contrastantes avec sa morale si douce, Lucien le renvoya au ministre et essaya de lui faire entendre que la présente conversation devait avoir un terme. Alors M. Desramiers insista, et Lucien, ennuyé de la figure doucereuse de ce coquin, se trouva très disposé à le traiter durement. « Mais ne pourriez-vous pas, monsieur, avoir l'extrême bonté d'exposer vous-même à son excellence la cruelle nécessité où je me trouve? Mes mandataires me reprochent sérieusement d'être infidèle aux promesses que je leur ai faites. Mais d'un autre côté, réclamer moi-même auprès de son excellence la destitution d'un père de famille... Cependant, j'ai des devoirs à remplir envers ma propre famille. La confiance du gouvernement pourrait m'appeler à la Cour des comptes, par exemple. En ce cas, il faudrait une réélection. Et comment me présenter devant mes mandataires étonnés si la conduite de M. Tourte n'a pas reçu une marque éclatante de désapprobation ? Je conçois. La majorité ayant été de 2 voix, la moindre prépondérance acquise par le parti contraire peut être funeste à la future députation. Mais, monsieur, je ne me mêle d'élection que le moins possible. Je vous avouerai que je vois dans le mécanisme social beaucoup d'actions nécessaires, indispensables même, j'en conviens, auxquelles pour rien au monde je ne voudrais m'astreindre. Les arrêts des tribunaux doivent être exécutés, mais pour rien au monde, je ne voudrais me charger de ce soin. » M. Desramiers rougit beaucoup et comprit enfin qu'il fallait se retirer. « M. Tourte sera destitué, mais j'ai appelé bourreau ce nouveau Fénelon. » Moins de 4 jours après, il trouva dans le portefeuille de la première division une grande lettre du ministre de l'Intérieur au ministre des Finances, pour ordonner au directeur des impositions indirectes de proposer la destitution de M. Tourte. Lucien appela un commis extrêmement adroit pour gratter et fit mettre partout « Tarte » au lieu de « Tourte ». Il fallut 15 jours de démarche à M. Desramiers pour trouver la cause qui arrêtait la destitution. Pendant ce temps, Leven avait trouvé l'occasion de raconter toute la scène renouvelée du Tartuffe que M. Desramiers était venu faire dans son bureau. La bonne Madame de Vaise ne voyait le mal que lorsqu'il était bien clairement expliqué et prouvé. Elle reparla 7 à 8 fois à Lucien du pauvre commis Tourte, dont le nom l'avait frappé. Et 2 ou 3 fois, elle oublia d'inviter M. Desramiers au dîner donné aux députés du second ordre. M. Desramiers comprit d'où venait le coup et se mit à s'insinuer dans la très bonne compagnie, où il passait pour un philosophe hardi et pour un novateur trop libéral. Lucien avait oublié le coquin lorsque le petit Desbacq, qui lui faisait la cour et qui enviait la fortune de M. Desramiers, vint lui conter les propos de celui-ci. Cela parut bien fort à Lucien. « Voici un coquin qui en calomnie un autre. » Il alla voir M. Crapard, le chef de la police du ministère, et le pria de faire vérifier le propos. M. Crapard, un peu nouveau dans les salons de bonne compagnie, ne doutait pas que Leven ne fût bien avec Madame la comtesse de Vaise, ou du moins bien près d'atteindre à ce poste si envié par les jeunes commis, amant de la femme du ministre. Il servit Lucien avec un zèle parfait, et 8 jours après lui apporta les rapports originaux portant les propos tenus par M. Desramiers sur Madame de Vaise. « Attendez-moi un instant, » dit Lucien à M. Crapard. Et il porta les rapports sans orthographe des observateurs de bonne compagnie à Madame de Vaise, qui rougit beaucoup. Elle avait pour Lucien une confiance et une ouverture de cœur bien voisine d'un sentiment plus tendre. Lucien le voyait un peu, mais il était si excédé de son amour pour Madame Grandet que toute relation de ce genre lui faisait horreur. Une heure de promenade tranquille et sombre au pas de son cheval dans les bois de Meudon était ce qu'il avait trouvé de plus semblable au bonheur depuis qu'il avait oublié Nancy. Lucien trouva les jours suivants Madame de Vaise réellement irritée contre M. Desramiers, et comme elle avait plus de sensibilité que d'usage du monde, elle fit sentir sa colère au député journaliste d'une façon humiliante. Cet esprit si doux trouva, je ne sais comment, des mots cruels pour le moderne Fénelon, et ces mots, dits sans précaution au milieu de toute la cour qui entoure la femme d'un ministre puissant, furent cruels pour l'auréole de vertu et de philanthropie du député journaliste. Ses amis lui parlèrent, il y eut une allusion assez claire dans le Charivari, journal qui exploitait avec assez de bonheur la tartufferie de messieurs du juste milieu. Lucien avait vu passer une lettre du ministre des Finances, annonçant que le directeur des contributions indirectes répondait qu'il n'y avait point de monsieur Tarte parmi les commis à pied attachés aux contributions indirectes. Mais monsieur Desramiers avait eu le crédit de faire ajouter un post-scriptum à cette lettre par le ministre des Finances. On lisait de la main même du ministre. « Ne s'agirait-il point de M. Tourte, commis à Escorbiac ?» 8 jours après, réponse de M. le comte de Vaise à son collègue. « Oui, c'est précisément M. Tourte qui s'est mal conduit et dont je propose la destitution. » Lucien vola la lettre et courut la montrer à Madame de Vaise, que cette affaire intéressait au plus haut point. « Que faisons-nous ? » dit-elle à Lucien avec un air soucieux qui lui parut charmant. Il lui prit la main, qu'il baisa avec transport. « Que faites-vous ? » lui dit-on d'une voix éteinte. « Je vais me tromper d'adresse et faire mettre sur l'enveloppe de cette lettre l'adresse du ministre de la guerre. » 11 jours après, arriva la réponse du ministre de la guerre, annonçant l'erreur commise sur l'adresse. Lucien porta cette réponse à M. de Vaise. Le commis des cacheteurs avait placé 3 lettres reçues du ministère de la guerre ce jour-là dans une feuille de grand papier d'enveloppe, dont il avait fait ce qu'on appelle dans les bureaux une chemise, et sur cette feuille avait écrit « Trois lettres de Monsieur le ministre de la guerre ». Leven avait depuis 8 jours en réserve une lettre du ministre de la guerre, réclamant son autorité sur la garde municipale à cheval de Paris. Lucien la substitua à la lettre qui renvoyait celle sur M. Tourte. M. Desramiers n'avait pas de relation directe avec le ministère de la guerre. Il fut obligé d'avoir recours au fameux général Barbeau. Et enfin, ce ne fut que 6 mois après sa demande que M. Desramiers put obtenir la destitution de M. Tourte. Et quand Mme Devez la prit, elle remit à Leven 500 francs destiné à ce pauvre commis. Lucien eut une 20aine d'affaires de ce genre. Mais, comme on voit, ces détails de basse intrigue exigent 8 pages d'imprimerie pour être rendus intelligibles. C'est trop cher. La douce Madame Devez, poussée à son insu par un sentiment nouveau pour elle, avait déclaré à son mari avec une fermeté qui le surprit infiniment qu'elle aurait mal à la tête et dînerait dans sa chambre toutes les fois que M. Desramiers dînerait au ministère. Après 2 ou 3 essais, le comte Devez finit par effacer le nom de M. Desramiers sur la liste des députés invités. Au su de cet événement, une grande moitié du centre cessa de serrer la main au doucereux rédacteur du journal ministériel. Pour comble de misère, M. Leven père, qui ne sut l'anecdote que fort tard, par une indiscrétion de Desbach, se la fit raconter avec détail par son fils, et, le nom de M. Tourte lui paraissant excellent, bientôt cette anecdote brilla dans les salons de la haute diplomatie. M. Desramiers, qui se fourrait partout, ayant obtenu, je ne sais comment, d'être présenté à M. l'ambassadeur de Russie, le célèbre prince de N, dit tout haut en recevant le salut de M. Desramiers « Ah, le Desramiers de Tourte !» Sur quoi le fénelon moderne devint pourpre, et le lendemain, M. Leven père mit l'anecdote en circulation dans tout Paris. Chapitre 60. Le roi fit appeler M. Leven à l'insu de ses ministres. En recevant cette communication de M. de N, officier d'ordonnance du roi, le vieux banquier rougit de plaisir. Il avait déjà 20 ans quand la royauté tomba en 1793. Toutefois, s'apercevoir de son trouble et le dominer ne fut qu'un instant pour cet homme vieilli dans les salons de Paris. Il fut avec l'officier d'ordonnance d'une froideur qui pouvait passer également pour du respect profond ou pour un manque complet d'empressement. En effet, l'officier se disait en remontant en cabriolet « Cet homme, malgré tout son esprit, est-il un jacobin ou un nigaud ébahi devant un serrement de main ?» Monsieur Leven regarda le cabriolet s'éloigner. Au même instant, le sang-froid lui revint. « Je vais jouer le rôle si connu de Samuel Bernard promené par Louis XIV dans les jardins de Versailles. » Cette idée suffit pour rendre à M. Leven tout le feu de la première jeunesse. Il ne se dissimula point le petit moment de trouble qu'avait causé le message de Sa Majesté, et moins encore le ridicule que lui eût donné ce trouble s'il eût été coté au foyer de l'opéra. Jusque-là, il n'y avait eu entre le roi et M. Leven que des phrases polies, au bal ou à dîner. Il avait dîné 2 ou 3 fois avec le roi dans les premiers temps qui suivirent la révolte de juillet. Elle portait alors un autre nom, et Leven, difficile à tromper, avait été un des premiers à discerner la haine qu'inspirait un exemple aussi pernicieux. Alors, il avait lu dans ce regard auguste « Je vais faire peur aux propriétaires et leur persuader que c'est la guerre des gens qui n'ont rien contre ceux qui ont quelque chose. » Afin de ne pas passer pour aussi bête que quelques députés campagnards invités avec lui, Leven avait dirigé quelques plaisanteries enveloppées contre cette idée. que personne n'exprimait. Leveine craignit un instant qu'on ne voulût compromettre le petit commerce de Paris en lui faisant répandre du sang. Il trouva l'idée de mauvais goût et donna, sans balancer, sa démission de chef de bataillon, où l'avait porté le petit commerce en boutique, auquel il prêtait assez généreusement quelques billets de 1000 francs, que même on lui rendait, et n'avait plus dîné chez les ministres, sous prétexte qu'ils étaient ennuyeux. Le comte de Beausobre, ministre des Affaires étrangères, lui disait pourtant « Un homme comme vous !» et le poursuivait d'invitations à dîner. Mais Leveine avait résisté à une éloquence aussi adroite. En 1792, il avait fait une campagne ou deux, et le nom de République française était pour lui le nom d'une maîtresse, autrefois aimée, et qui s'est mal conduite. Enfin, son heure n'avait pas sonné. Le rendez-vous indiqué par le roi bouleversa toutes ses idées. Il était d'autant plus attentif sur lui-même qu'il ne se sentait pas de sang-froid. Au château, M. Leveine fut parfaitement convenable, mais d'un sang-froid parfait en apparence. L'esprit cauteleux et fin du premier personnage saisit bientôt cette nuance et en fut fort mécontent. Il essaya en vain du ton amical, même de l'intérêt particulier, pour donner des ailes à l'ambition de ce bourgeois. Rien n'y fit. Mais n'outrageons point la réputation de finesse cauteleuse de cet homme célèbre. Que voulait-on qu'il fût sans victoire militaire et en présence d'une presse si méchante et si spirituelle? Nous faisons observer d'ailleurs que ce personnage célèbre voyait Leveine pour la première fois. Jusque-là, il n'y avait eu que des phrases polies à dîner. Le procureur de Basse-Normandie, qui occupe le trône, commença par dire à Leveine, comme son ministre, « Un homme tel que vous !» Mais trouvant ce plébéien malin, endurci contre ses douces paroles, voyant qu'il perdait le temps inutilement, et ne voulant pas, par la longueur de l'entrevue, donner à Leveine une idée exagérée du service qu'on lui demandait, le roi, en moins d'un quart d'heure, fut réduit à la bonhomie. En observant ce changement de ton chez un homme si adroit, Leveine fut content de soi, et ce premier succès lui rendit enfin la confiance en soi-même. « Voilà, se dit-il, que Sa Majesté renonce aux finesses bourboniennes. » On lui disait, de l'air le plus paterne, et comme si dans ce qu'on disait de décisif marqué l'on était poussé et comme contraint par les événements. « J'ai voulu vous voir, mon cher monsieur, à l'insu de mes ministres, qui, je le crains, à l'exception du maréchal, le ministre de la guerre, ne vous ont pas donné à vous et au lieutenant Leveine de grands sujets d'être contents d'eux. Demain aura lieu, selon toute apparence, le scrutin définitif sur la loi de... Je vous avouerai, monsieur, que je prends à cette loi un intérêt tout personnel. Je suis sûr qu'elle passera par assis élevé. N'est-ce pas votre avis ?
Oui, sire.
Mais au scrutin, j'aurai un bel et bon rejet par 8 ou 10 boules noires, n'est-ce pas ?
Oui, sire.
Eh bien, rendez-moi un service. Parlez contre. Vous le trouverez nécessaire à votre position, mais donnez-moi vos 35 voix. C'est un service personnel que j'ai voulu vous demander moi-même.
Sire, je n'ai que 27 voix en ce moment, en comptant la mienne.
Ces pauvres têtes ! Le roi parlait de ses ministres. Se sont effrayés, ou plutôt piqués, parce que vous aviez donné une liste de 8 petites places subalternes. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'approuve d'avance cette liste, et je vous engage, puisque nous trouvons une bonne occasion, à y joindre quelque chose pour vous, monsieur, ou pour le lieutenant Leveine. Heureusement pour monsieur Leveine, le roi parla 3 ou 4 minutes dans ce sens. Monsieur Leveine reprit presque tout son sang-froid.
« Sire, lui dit M. Leveine, je demande à votre majesté de ne rien signer pour moi ni pour mes amis, et je lui fais hommage de mes 27 voix pour demain. »«
Parbleu, vous êtes un brave homme, dit le roi.
jouant, et pas trop mal, la franchise à la Henri IV. Il était nécessaire de se rappeler de son nom pour n'y être pas pris. Sa Majesté parla un bon demi-quart d'heure dans ce sens. « Sire, il est impossible que Monsieur de Beausobre pardonne jamais à mon fils. Ce ministre a peut-être manqué un peu de fermeté personnelle envers ce jeune homme plein de feu que Votre Majesté appelle le lieutenant Leven. Je demande à Votre Majesté de ne jamais croire un mot des rapports que Monsieur de Beausobre fera faire sur mon fils par sa police particulière ou même par celle du bon Monsieur de Vèze, son ami. » « Et que vous servez avec tant de probité ?» dit le roi. Son œil brillait de finesse. Monsieur Leven se tut. Le roi répéta la question avec l'air étonné du manque de réponse. « Sire, je craindrais en répondant de céder à mes habitudes de franchise. « Répondez, monsieur, exprimez votre pensée, quelle qu'elle soit. » L'interlocuteur parlait en roi. « Sire, personne ne doute des correspondances directes du roi avec les cours du Nord, mais personne ne lui en parle. » Cette obéissance si prompte et si entière eut l'air d'étonner un peu ce grand personnage. Il vit que M. Leven n'avait aucune grâce à lui demander. Comme il n'était pas accoutumé à donner ou à recevoir rien pour rien, il avait calculé que les 27 voix devaient lui coûter 27 000 francs. « Et ce serait marché donné, » pensait le barème couronné. Il reconnut chez M. Leven cette physionomie ironique dont le rapport de son général N. lui avait parlé si souvent. « Sire, » ajouta M. Leven, « je me suis fait une position dans le monde en ne refusant rien à mes amis et en ne me refusant rien contre mes ennemis. C'est une vieille habitude. Je supplie Votre Majesté de ne pas me demander de changer de caractère envers vos ministres. Ils ont pris des airs de hauteur avec moi, même ce bon ministre des Finances, qui m'a dit gravement à la Chambre, en parlant de mes 8 places de 1 800 francs, « Cher ami, il ne faut pas être insatiable. Je promets à Votre Majesté mes voix, qui seront 27 au plus, mais je la supplie de me permettre de me moquer de ses ministres. » C'est ce dont M. Leven s'acquitta le lendemain, avec une verve et une gaieté admirables. Après tout, son éloquence prétendue n'était qu'une saillie de caractère. C'était un être plus naturel qu'il n'ait permis de l'être à Paris. Il était excité par l'idée d'avoir réduit le roi à être presque sincère avec lui. La loi à laquelle le roi prétendait tenir passa à une majorité de 13 voix, dont 6 ministres. Quand on proclama ce résultat, M. Leven, placé au second banc de la gauche, à 3 pas des ministres, dit tout haut « Ce ministère s'en va, bon voyage !» Ce mot fut à l'instant répété par tous les députés voisins du banc. M. Leven, se trouvant seul dans une chambre avec un laquais, était heureux de l'approbation de ce laquais. On peut juger combien il était sensible au succès de ces mots les plus simples tels que celui-ci. « Ma réputation jure pour moi !» se dit-il en passant la revue de ses yeux brillants fixés sur les siens. D'abord, tout le monde voyait bien qu'il n'était pas passionnément pour aucune opinion. Il n'était peut-être que 2 choses auxquelles il n'eût jamais consenti, le sang et la banqueroute. 3 jours après cette loi, emporté par 13 voix, dont 6 de ministres, M. Bardoux, le ministre des Finances, s'approcha à la chambre de M. Leven et lui dit d'un air fort ému, il avait peur d'une épigramme et parlait à mi-voix, « Les 8 places étaient accordées. »« Fort bien, M. Bardoux, » lui dit-il, « mais vous vous devez à vous-même de ne pas contresigner ces grâces-là. Laissez cela à votre successeur aux Finances. » « J'attendrai, monseigneur. » M. Leven parlait fort clairement. Tous les députés voisins furent émerveillés. Se moquer d'un ministre des Finances, d'un homme qui peut faire un receveur général? Il eut bien quelque peine
à faire agréer ce succès aux 8 membres de sa Légion du Midi, à la famille desquels étaient destinées les 8 places. « Dans 6 mois, nous avons 2 places au lieu d'une. Il faut savoir faire des sacrifices. » « Voilà de belles calombres d'aine !» lui dit un de ses députés plus hardis que les autres. L'œil de M. Leven brilla. Il lui vint 2 ou 3 réponses, mais il sourit agréablement. « Il n'y a qu'un sot, pensa-t-il, qui coupe la branche de l'arbre sur laquelle il est à cheval. » Tous les yeux étaient fixés sur M. Leven. Un autre député, enhardi, s'écria « Notre ami Leven nous sacrifie tous à un bon mot. » « Si vous voulez rompre mes relations, vous en êtes bien les maîtres, messieurs, » dit Leven d'un ton grave. « Auquel cas je serai obligé de faire agrandir ma salle à manger pour recevoir les nouveaux amis qui me demandent chaque jour de voter avec moi. » « Là, là, la paix !» s'écria un député rempli de bon sens. « Que serions-nous sans M. Leven ? Quant à moi, je l'ai choisi pour général en chef pour toute ma carrière législative. Je ne lui serai jamais infidèle. Ni moi, ni moi !» Les 2 députés qui avaient parlé, hésitant, M. Leven alla leur prendre la main et voulut bien essayer de leur faire entendre qu'en acceptant ces 8 places, la société était ravalée à l'état des 300 de M. de Villèle. « Paris est un pays dangereux. Tous les petits journaux, dans 8 jours, auraient été acharnés après vos noms. » À ces mots, les 2 opposants frémirent. « Le moins épais, se dit l'inexorable Leven, aurait bien pu fournir des articles. » Et la paix fut faite. Le roi faisait souvent inviter à dîner M. Leven, et après dîner, le tenait 1/2 ou 3/4 d'heure dans l'embrasure d'une fenêtre. « Ma réputation d'esprit est enterrée si je ménage les ministres. » Et il affectait de se moquer, sans retenue, de quelqu'un de ces messieurs, le lendemain de chaque dîner au château. Le roi lui en parla. « Sire, j'ai supplié votre majesté de me laisser carte blanche à cet égard. Je ne pourrai accorder quelque trêve qu'au successeur de ceci. Ce ministère manque d'esprit. Or, c'est ce que, dans des temps tranquilles, Paris ne peut pas pardonner. Il faut aux bonnes têtes de ce pays du prestige, comme Bonaparte revenant d'Égypte, ou de l'esprit. » À ce nom redouté, le roi fit la mine d'une jeune femme nerveuse devant laquelle on a nommé le bourreau. Peu de jours après cette conversation avec le roi, il vint une affaire à la chambre, à l'énoncé de laquelle tous les yeux cherchèrent M. Leven. Madame d'Estrois, ex-directrice de la poste aux lettres à Torville, se plaignait d'avoir été destituée, comme accusée et convaincue d'une infidélité qu'elle n'avait pas commise. Elle voulait, en faisant une pétition, justifier son caractère. Quant à avoir justice, elle n'y songerait pas tant que M. Bardoux aurait la confiance du roi. La pétition était piquante, toujours sur le bord de l'insolence, mais point insolente. On l'eût dit rédigée par feu M. de Martignac. M. Leven parla 3 fois, et à la seconde fut littéralement couvert d'applaudissements. Ce jour-là, à l'ordre du jour, demandé à 2 genoux par M. le comte de Vèze, fut obtenu à la majorité de 2 voix, et encore par assis et levé, la majorité du ministre avait été de 15 ou 20 voix. M. Leven dit à ses voisins, formant groupe autour de lui comme à l'ordinaire, « Monsieur de Vèze change les habitudes des gens timides. Ordinairement, on se lève pour la justice. » Et l'on vote pour le ministère. Moi, j'ouvre une souscription en faveur de la veuve d'Estrois, ex-directrice de poste et qui sera toujours ex, et je m'inscris pour 3 000 francs. » Autant M. Leven était tranchant avec les ministres, autant il était attentif à être le très humble serviteur de sa Légion du Midi. Il n'invitait à dîner chez lui que ses 28 députés. S'il eût voulu, son parti personnel, car ses opinions étaient fort accommodantes, se fût élevé à 50 ou 60.
Les ministres donneraient bien les 100 000 francs qu'ils ont envoyés trop tard à mon fils pour scinder ma bonne petite troupe. »
Assez ordinairement, il avait tous ces messieurs à dîner le lundi pour convenir du plan de la campagne parlementaire pendant la semaine.
« Lequel de vous, messieurs, aurait pour agréable de dîner au château ?»
À ce mot, ces bons députés le virent ministre. Ces messieurs convinrent que M. Chapeau, l'un d'entre eux, devait avoir cet honneur le premier, et que plus tard, avant la fin de la session, on solliciterait le même honneur pour M. Cambrai. J'ajouterai à ces noms ceux de M. Lamorte et Debré qui ont voulu nous quitter. Ces messieurs bredouillèrent et firent des excuses. M. Levenne alla solliciter l'aide de camp de service de Sa Majesté, et moins de 15 jours après, ces 4 députés, plus obscurs qu'aucun de la chambre, furent engagés à dîner chez le roi. M. Cambrai fut tellement comblé de cette faveur inespérée qu'il tomba malade et ne put en profiter. Le lendemain du dîner chez le roi, M. Levenne pensa qu'il devait profiter de la faiblesse de ces bonnes gens, auxquels l'esprit seul manquait pour être méchant. « Messieurs, leur dit-il, si Sa Majesté m'accordait une croix, lequel de vous devrait être l'heureux chevalier ?» Ces messieurs demandèrent 8 jours pour se concerter, mais ils ne purent tomber d'accord. On alla au scrutin après dîner, suivant un usage que M. Levenne laissait exprès tomber un peu en désuétude. On était 27, M. Cambrai, malade et absent, eut 13 voix, M. Lamorte 14, y compris celle de M. Levenne. M. Lamorte fut désigné. Il n'y avait pas la moindre apparence qu'il pût obtenir une croix. Mais, pensa-t-il, cette idée les empêchera de se révolter. M. Levenne allait assez régulièrement chez le maréchal N, depuis que ce ministre avait nommé Lucien le tenant. Le maréchal lui témoignait beaucoup de bienveillance, et ces messieurs finirent par se voir 3 fois la semaine. Le maréchal finit par lui faire entendre, mais de façon à ne pas s'attirer de réponse, que si le ministère tombait, et que lui, maréchal, fût chargé d'en former un autre, il ne se séparerait pas de M. Levenne. M. Levenne fut très reconnaissant, mais évita soigneusement de prendre un engagement analogue. Depuis longtemps, M. Levenne avait osé avouer ses lueurs d'ambition à Mme Levenne. « Je commence à songer sérieusement à tout ceci. Le succès est venu me chercher. Moi, être éloquent, comme disent les journalistes amis, cela me paraît plaisant. Je parle à la chambre comme dans un salon. Mais si ce ministère qui ne bat plus que d'une aile vient à tomber, je ne saurais plus que dire, car enfin je n'ai d'opinion sur rien. Et certainement, à mon âge, je n'irai pas étudier pour m'en former une. Mais, mon père, vous possédez parfaitement les questions de finance. Vous comprenez le budget avec tous ses leurres, et il n'y a pas 50 députés qui sachent exactement comment le budget ment, et ces 50 députés sont achetés avec soin et avant tous les autres. Avant-hier, vous avez fait frémir M. le ministre des Finances dans la question du monopole des tabacs. Vous avez tiré un parti prodigieux de la lettre du préfet Noirot qui refuse la culture à un homme qui pense mal.
Ceci n'est que du sarcasme. Un peu fait bien, mais toujours du sarcasme finira par révolter la minorité stupide de la Chambre, qui, au fond, ne comprend rien à rien, et presque la majorité. Mon éloquence et ma réputation sont comme une omelette soufflée. Un ouvrier grossier trouve que ses viandes creusent.
Vous connaissez parfaitement les hommes en général, et surtout tout ce qui a paru dans les affaires à Paris depuis le consulat de Napoléon en 1800, cela est immense.
La Gazette vous appelle le mot repas de cette époque, dit Madame Levenne. Je voudrais bien avoir sur vous le crédit que Madame de Maurepas avait sur son mari. « Amusez-vous, mon ami, mais de grâce, ne vous faites pas ministre, vous en mourriez. Vous parlez déjà beaucoup trop, j'ai mal à votre poitrine. » il y a un autre inconvénient à être ministre. Je me ruinerai. » La perte de ce pauvre Van Peters se fait vivement sentir. Nous avons été pincés dernièrement dans deux banqueroutes d'Amsterdam, uniquement parce que depuis qu'il nous manque, je ne suis pas allée en Hollande. Cette maudite chambre en est la cause, et le maudit Lucien que voilà est la cause première de tous mes embarras. D'abord, il m'a enlevé la moitié de votre cœur. Ensuite, il devrait connaître le prix de l'argent et être à la tête de ma maison de banque. A-t-on jamais vu un homme né riche qui ne songe pas à doubler sa fortune? Il mériterait d'être pauvre. Ces aventures de camp, lors de la nomination de M. Mérobert, m'ont piqué. Sans la sotte réception que lui fit le Devèze, je n'aurais songé à me faire une position à la chambre. J'ai pris goût à ce jeu. Maintenant, je vais avoir une bien autre part à la chute de ce ministère, s'il tombe toutefois, que je n'en ai eu à sa formation. Mais une objection terrible se présente. Que puis-je demander? Si je ne prends rien de substantiel, au bout de 2 mois, le ministère que j'aurais aidé à naître se moque de moi, et je suis dans une position ridicule. Me faire receveur général, cela ne signifie rien pour moi comme argent, et d'ailleurs, c'est un avantage trop subalterne pour ma position actuelle à la Chambre. Faire Lucien préfet malgré lui, c'est ménager à celui de mes amis qui sera ministre de l'Intérieur le moyen de me jeter dans la boue en le destituant, ce qui arriverait avant 3 mois. Mais ne serait-ce pas un beau rôle que de faire le bien et de ne rien prendre ? Dit Madame Leven.
C'est ce que notre public ne croira jamais. Monsieur de Lafayette a joué ce rôle pendant 40 ans et a toujours été sur le point d'être ridicule. Ce peuple-ci est trop gangrené pour comprendre ces choses-là. Pour les 3/4 des gens de Paris, Monsieur de Lafayette eût été un homme admirable s'il eût volé 4 millions. Si je refusais le ministère et montais ma maison de façon à dépenser 100 000 écus par an, tout en achetant des terres, ce qui montrerait que je ne me ruine pas. On ajouterait foi à mon génie, et je garderais la supériorité sur tous ces demi-fripons qui vont se disputer le ministère. Si tu ne me résous pas cette question-ci, que puis-je prendre ? Dit-il à son fils en riant. Je te regarde comme un être sans imagination, et je n'ai d'autre parti à suivre que de jouer la petite santé et d'aller passer 3 mois en Italie pour laisser faire un ministère sans moi. Au retour, je me trouverai bien effacé, mais je ne serai pas ridicule. En attendant que je trouve les moyens d'user de cette faveur combinée du roi et de la chambre, qui fait de moi l'un des représentants de la haute banque, il faut constater cette faveur et l'augmenter. J'ai à vous demander une grande corvée, ma chère amie, ajouta-t-il en s'adressant plus particulièrement à sa femme. Il s'agirait de donner 2 bals. Si le premier n'est pas « well attend », nous nous dispenserons du second. Mais je suppose qu'au second, nous aurons toute la France, comme on disait dans ma jeunesse. » Les 2 bals eurent lieu, et avec un immense succès, ils furent pleinement favorisés par la mode. Le maréchal vint au premier, où la chambre des députés afflua en masse, l'on peut dire. Le prince ne manqua pas. Mais ce qui fut plus réel, le ministre de la guerre affecta de prendre à part M. Leven pendant 20 minutes au moins. Ce qu'il y avait de singulier, c'est que pendant cet aparté, qui faisait ouvrir de grands yeux aux 180 députés présents, le maréchal avait réellement parlé d'affaires à M. Leven. « Je suis bien embarrassé d'une chose, » avait dit le ministre de la guerre. « En chose raisonnable, que trouveriez-vous à faire pour monsieur votre fils? Le voulez-vous préfet? Rien de si simple. Le voudriez-vous secrétaire d'ambassade? Il y a une hiérarchie gênante. Je le ferai second, et dans 3 mois premier. » « Dans 3 mois, » dit monsieur Leven avec un air naturellement dubitatif et bien loin d'être exagéré. Malgré cet air, le maréchal eut pris ce mot pour une insolence dans tout autre. À Monsieur Leven, il répondit de l'air de la plus grande foi et d'un embarras réel. « Voilà une difficulté. Donnez-moi un moyen de la lever. » Monsieur Leven, ne trouvant rien à répondre, se rejeta dans la reconnaissance, dans l'amitié la plus réelle, la plus simple, la plus... Ces deux plus grands trompeurs de Paris étaient sincères. Ce fut la réflexion de Madame Leven quand Monsieur Leven lui répéta le dialogue de son aparté avec le maréchal. Au second bal, tous les ministres furent obligés de paraître. La pauvre petite Madame de Vèze pleura presque en disant à Lucien « Au bal de la saison prochaine, c'est vous qui serez ministre et c'est moi qui viendrai chez vous. » « Je ne vous serai pas plus dévoué alors qu'aujourd'hui, parce que c'est impossible. » Mais qui serait ministre dans cette maison? Ce n'est pas moi. Ce serait encore moins mon père, s'il est possible. Vous n'en êtes que plus méchant. Vous nous renversez et ne savez que mettre à la place. Tout cela parce que Monsieur de Vèze ne vous a pas fait assez la cour à vous, monsieur, quand vous reveniez de Caen. Je suis désolé de votre chagrin. Que ne puis-je vous consoler en vous donnant mon cœur? Mais vous savez bien qu'il est vôtre depuis longtemps. » Ce qui fut dit avec assez de sérieux pour n'être pas une impertinence. La pauvre petite Madame de Vèze n'avait pas assez d'esprit pour voir la réponse à faire, et était encore bien plus loin d'avoir assez d'esprit pour faire cette réponse. Elle se contenta de la sentir confusément. C'était à peu près « Si j'étais parfaitement sûre que vous m'aimiez, si j'avais pu prendre sur moi d'accepter votre hommage, le bonheur d'être à vous serait peut-être la seule consolation possible au malheur de perdre le ministère. » Voilà encore un des malheurs de ce ministère que mon père côtoie. Il ne fut point un bonheur pour cette pauvre petite femme quand M. de Vèze y arriva. Le seul sentiment qu'il produisit probablement chez elle, autant que j'ai pu en juger, fut l'embarras, la crainte, etc. Et voilà qu'elle va être au désespoir de le perdre, si elle le perd. C'est une âme qui ne demande qu'un prétexte pour être triste. Si le de Vèze est chassé, elle prendra peut-être le parti d'être triste pendant 10 ans. Au bout de ces 10 ans, elle sera au commencement de l'âge mûr. Si elle ne trouve pas un prêtre pour s'occuper d'elle exclusivement sous prétexte de diriger sa conscience, elle est ennuyée et malheureuse jusqu'à la mort. Il n'est aucune beauté, aucune élégance de manière qui puisse faire passer sur un caractère aussi ennuyeux. Requiescat in pace. Je serais bien attrapée si elle me prenait au mot et me donnait son cœur. Les temps sont maussades et tristes. Sous Louis XIV, j'eusse été galant et aimable auprès d'une telle femme. J'eusse essayé, du moins. En ce 19e siècle, je suis platement sentimentale. C'est pour elle la seule consolation en mon pouvoir. Et si nous écrivions des mémoires de Walpole ou tout autre livre de ce genre, également au-dessus de notre génie, nous continuerions à donner l'histoire anecdotique de 7 demi-coquins, dont 2 ou 3 adroits et 1 ou 2 beaux parleurs, remplacés par le même nombre de fripons. Un pauvre honnête homme qui, au ministère de l'Intérieur, se fût occupé avec bonne foi de choses utiles, eût passé pour un sot. Toute la chambre l'eût bafoué. Il fallait faire sa fortune, non pas en volant brutalement. Toutefois, avant tout, pour être estimé, il fallait mettre du foin dans ses bottes. Comme ses mœurs sont à la veille d'être remplacées par les vertus désintéressées de la République, qui sauront mourir comme Robespierre, avec 13 livres dissous dans la poche, nous avons voulu en garder note. Mais ce n'est pas même l'histoire des goûts au moyen desquels cet homme de plaisir écartait l'ennui que nous avons promise au lecteur. Ce n'est que l'histoire de son fils, être fort simple, qui, malgré lui, fut jeté dans des embarras par cette chute de ministre, autant du moins que son caractère sérieux le lui permit. Lucien avait un grand remords à propos de son père. Il n'avait pas d'amitié pour lui. C'est ce qu'il se reprochait souvent, sinon comme un crime, du moins comme un manquement de cœur. Lucien se disait,
quand les affaires dont il était accablé lui permettaient de réfléchir un peu. « Quelle reconnaissance ne dois-je pas à mon père ? Je suis le motif de presque toutes ses actions. Il est vrai qu'il veut conduire ma vie à sa manière, mais au lieu d'ordonner, il me persuade. Combien ne dois-je pas être attentif sur moi ?» Il avait une honte intime et profonde à s'avouer, mais enfin il fallait bien qu'il s'avouât, qu'il manquait de tendresse pour son père. C'était un tourment pour lui, et un malheur presque plus âpre que ce qu'il appelait dans ses jours de noir avoir été trahi par madame de Chastelet. Le véritable caractère de Lucien ne paraissait point encore. Cela est drôle à 24 ans. Sous un extérieur qui avait quelque chose de singulier et de parfaitement noble, ce caractère était naturellement gai et insouciant. Tel il avait été pendant 2 ans après avoir été chassé de l'école, mais cette gaieté souffrait actuellement une éclipse totale depuis l'aventure de Nancy. Son esprit admirait la vivacité et les grâces de mademoiselle Raymonde, mais il ne pensait à elle que lorsqu'il voulait tuer la partie la plus noble de son âme. Dans cette crise ministérielle, vint se joindre à ce sujet de tristesse le remords cuisant de ne pas avoir d'amitié ou de tendresse pour son père. Le chiasme entre ces deux êtres était trop profond. Tout ce qui, à tort ou à raison, paraissait sublime, généreux, tendre à Lucien, toutes les choses desquelles il pensait qu'il était noble de mourir pour elle, ou beau de vivre avec elle, étaient des sujets de bonne plaisanterie pour son père et une duperie à ses yeux. Ils n'étaient peut-être d'accord que sur un seul sentiment, l'amitié intime consolidée par 30 ans d'épreuves. À la vérité, M. Leven était d'une politesse exquise et qui allait presque jusqu'au sublime et à la reproduction de la réalité pour les faiblesses de son fils. Mais ce fils avait assez de tact pour le deviner. C'était le sublime de l'esprit, de la finesse, de l'art d'être poli, délicat, parfait. Chapitre 61. Tout le monde voyait de plus en plus que M. Leven allait représenter la bourse et les intérêts d'argent dans la crise ministérielle, que tous les yeux voyaient s'élever rapidement à l'horizon et s'avancer. Les disputes entre le maréchal ministre de la guerre et ses collègues devenaient journalières et l'on peut dire violentes. Mais ce détail se trouvera dans tous les mémoires contemporains et nous écarterait trop de notre sujet. Il nous suffira de dire qu'à la Chambre, M. Leven était plus entouré que les ministres actuels. L'embarras de M. Leven croissait de jour en jour. Tandis que tout le monde enviait sa façon d'être, son existence à la Chambre, dont il était fort content aussi, il voyait clairement l'impossibilité de la faire durer. Tandis que les députés instruits, les gros bonnets de la banque, les diplomates en petit nombre qui connaissent le pays où ils sont, admiraient la facilité et l'air de désoccupation avec lequel M. Leven conduisait et ménageait le grand changement de personne à la tête duquel il s'était placé, cet homme d'esprit était au désespoir de ne point avoir de projet. « Je retarde tout, » disait-il à sa femme et à son fils. Je fais dire au maréchal qu'il pourrait bien amener une enquête sur les 4 ou 5 millions d'appointements qu'il se donne. J'empêche le Devez, qui est hors de lui, de faire des folies. Je fais dire à ce gros ministre des Finances que nous ne dévoilerons que quelques-unes des moindres bourdes de son budget, etc., etc. Mais au milieu de tous ces retards, il ne me vient pas une idée. Qui est-ce qui me fera la charité d'une idée ?
Vous ne pouvez pas prendre votre glace, et vous avez peur qu'elle ne se fonde ? Dit madame Leven. Quelle situation pour un gourmand !
Et je meurs de peur de regretter ma glace quand elle sera fondue. Ces conversations se renouvelaient tous les soirs autour de la petite table où madame Leven prenait son lichen. Toute l'attention de monsieur Leven était appliquée maintenant à retarder la chute du ministère. Ce fut dans ce sens qu'il dirigea les 3 ou 4 dernières conversations avec un grand personnage,
Il ne pouvait pas être ministre, il ne savait qui portait au ministère, et si un ministère était fait sans lui, il perdait sa position. Depuis 2 mois, M. Leven était extraordinairement ennuyé par M. Grandet, qui, à bon compte, s'était mis à se souvenir tendrement qu'ils avaient autrefois travaillé ensemble chez M. Perregaux. M. Grandet lui faisait la cour et semblait ne pas pouvoir vivre sans le père ou le fils. Ce fat-là voudrait être receveur général à Paris ou à Rouen. Où vise-t-il à la pairie? Non, il veut être ministre.
Ministre, lui? Grand Dieu!
Répondit M. Leven en éclatant de rire. Mais ses chefs de division se moqueraient de lui. Mais il a cette importance épaisse et sotte qui plaît tant à la Chambre des députés. Au fond, ces messieurs abhorrent l'esprit. Ce qui leur déplaisait en messieurs Guizot et Thiers, qu'était-ce sinon l'esprit? Au fond, ils n'admettent l'esprit que comme mal nécessaire. C'est l'effet de l'éducation de l'Empire et des injures que Napoléon adressa à l'idéologie de M. Tracy à son retour de Moscou. Je croyais que la Chambre ne voudrait pas descendre plus bas que le comte de Vèze. Ce grand homme a juste le degré de grossièreté et d'esprit cauteleux à la Villèle pour être de plein pied et à deux de jeu avec l'immense majorité de la Chambre. Mais ce M. Grandet, tellement plat, tellement grossier, le supporteront-ils? La vivacité et la délicatesse de l'esprit seraient un défaut certainement mortel pour un ministre. La chambre de Jean de l'ancien régime à laquelle M. de Martignac avait affaire eut bien de la peine à lui pardonner un joli petit esprit de vaudeville. Qu'eût-ce été s'il eût joint à ce défaut cette délicatesse qui choque tant les marchands épiciers et les gens à argent? S'il doit y avoir excès, l'excès de grossièreté est bien moins dangereux. On peut toujours y remédier. Mais ce Grandet ne conçoit pas d'autre vertu que de s'exposer au feu d'un pistolet et d'une barricade d'insurgés. Dès que, dans une affaire quelconque, un homme ne se rendra pas à un bénéfice d'argent, à une place dans sa famille ou à quelque croix, il criera à l'hypocrisie. Il dit qu'il n'a jamais vu que 3 dupes en France, messieurs de Lafayette, Dupont de l'Eure et Dupont de Nemours, qui entendaient le langage des oiseaux. S'il avait encore quelque esprit, quelque instruction, quelque vivacité pour ferrailler agréablement dans la conversation, il pourrait faire quelque illusion. Mais le moins clairvoyant aperçoit tout de suite le marchand de gingembre enrichi qui veut se faire duc. C'était un homme bien autrement commun encore que M. de Vèze. « Monsieur le comte de Vèze est un Voltaire pour l'esprit et un Jean-Jacques pour le sentiment romanesque, si on le compare à Grandet. » C'était un homme qui, comme le monsieur de Castries du siècle de Louis XVI, ne concevait pas que l'on pût tant parler d'un d'Alembert ou d'un Diderot, gens sans voiture. De telles idées étaient de bon ton en 1780. Elles sont aujourd'hui au-dessous d'une gazette légitimiste de province, et elles compromettent le parti. Depuis le grand succès que son second discours à la Chambre avait procuré à M. Leven, Lucien remarqua qu'il était un tout autre personnage dans le salon de Mme Grandet. Il tâchait de profiter de cette nouvelle fortune et parlait de son amour, mais au milieu de toutes les recherches du luxe le plus cher, Lucien n'apercevait que le génie de l'ébéniste ou du tapissier. La délicatesse de ses artisans ne lui faisait voir que plus clairement les traits de caractère de Mme Grandet. Il était poursuivi par une image funeste qu'il faisait de vains efforts pour éloigner. La femme d'un marchand mercier qui vient de gagner le gros lot à une de ces loteries de Vienne que les banquiers de Francfort se donnent tant de peine pour faire connaître. Mme Grandet n'était point ce qu'on appelle une sotte et s'apercevait fort bien de ce peu de succès. Vous prétendez avoir pour moi un sentiment invincible, lui dit-elle un jour avec humeur. « Et vous n'avez pas même ce plaisir à voir les gens qui précèdent l'amitié. » « Grand Dieu, quelle vérité funeste !» se dit Lucien. « Est-ce qu'elle va avoir de l'esprit à mes dépens ?» Il se hâta de répondre. « Je suis d'un caractère timide, enclin à la mélancolie,
et ce malheur est aggravé par celui d'aimer profondément une femme parfaite et qui ne sent rien pour moi. » Jamais il n'avait eu plus grand tort de faire de telles plaintes. C'était désormais Madame Grandet qui faisait pour ainsi dire la cour à Lucien. Celui-ci semblait profiter de cette position, mais il y avait cela de cruel qu'il semblait s'en prévaloir, surtout quand il y avait beaucoup de monde. S'il trouvait Madame Grandet environnée seulement par ses complaisances habituelles, il faisait des efforts incroyables pour ne pas les mépriser. Ont-ils tort de sentir la vie d'une façon opposée à la mienne? Ils ont la majorité pour eux. Mais, en dépit de ces raisonnements fort justes, peu à peu il devenait froid, silencieux, sans intérêt pour rien. Comment parler de la vraie vertu, de la gloire, du beau, devant des sots qui comprennent tout de travers et cherchent à salir par de bonnes plaisanteries tout ce qui est délicat? Quelquefois, à son insu, ce dégoût profond le servait et rachetait les mouvements qu'il avait encore quelquefois et que la société de Nancy avait fortifiés en lui au lieu de les corriger. « Voilà bien l'homme de bon ton !» se disait Madame Grandet en le voyant debout devant sa cheminée, tournée vers elle et ne regardant rien. « Quelle perfection pour un homme dont le grand-père, peut-être, n'avait pas de carrosse !» Quel dommage qu'il ne porte pas un nom historique. Les moments vifs qui forment une sorte de tache dans ses manières seraient de l'héroïsme. Quel dommage qu'il n'arrive pas quelqu'un dans le salon pour jouir de la haute perfection de ses manières. Elle ajoutait cependant, « Ma présence devrait le tirer de cet état normal de l'homme comme il faut, et il semble que c'est surtout quand il est seul avec moi et avec ces messieurs. » Madame Grandet eut presque dit en se parlant à soi-même, « Avec ma suite. » Qu'il étale le plus de désintérêt et de politesse. S'il ne montrait jamais de chaleur pour rien, disait Madame Grandet, je ne me plaindrais pas. Il est vrai que Lucien, désolé de s'ennuyer autant dans la société d'une femme qu'il devait adorer, eût été encore plus désolé que cet état de son âme parut. Et, comme il supposait ces gens-là très attentifs aux procédés personnels, il redoublait de politesse et d'attentions agréables à leur égard. Pendant ce temps, la position de Lucien, secrétaire intime d'un ministre turlupiné par son père, était devenue fort délicate. Comme par un accord tacite, M. de Vèze et Lucien ne se parlaient presque plus que pour s'adresser des choses polies. Un garçon de bureau portait les papiers d'un bureau à l'autre. Pour marquer confiance à Lucien, le comte de Vèze l'accablait, pour ainsi dire, des grandes affaires du ministère. « Croit-il pouvoir me faire crier grâce ?» pensait Lucien. Et il travailla au moins autant que trois chefs de bureau. Il était souvent à son bureau dès 7 heures du matin, et bien des fois, pendant le dîner, faisait faire des copies dans le comptoir de son père et retournait le soir au ministère pour les faire placer sur la table de son Excellence. Au fond, l'Excellence recevait avec toute l'humeur possible ses preuves de ce qu'on appelle dans les bureaux « du talent ». Ceci est plus hébétant, au fond, disait Lucien Hakoff, que de calculer le chiffre d'un logarithme qu'on veut pousser à 14 décimales. Monsieur Levenne et son fils, disait Monsieur de Vèze à sa femme, veulent apparemment me prouver que j'ai mal fait de ne pas lui offrir une préfecture à son retour de Caen. Que peut-il demander? Il a eu son grade et sa croix, comme je le lui avais promis s'il réussissait. Et il n'a pas réussi. » Madame de Vèze faisait appeler Lucien 3 ou 4 fois la semaine et lui volait un temps précieux pour ses paperasses. Madame Grandet trouvait aussi des prétextes fréquents pour le voir dans la journée, et par amitié et reconnaissance pour son père, Lucien cherchait à profiter de ces occasions pour se donner les apparences d'un amour vrai. Il supputait qu'il voyait Madame Grandet au moins 12 fois la semaine. Si le public s'occupe de moi, il doit me croire bien épris, et je suis à jamais lavé du soupçon de saint-simonisme. Pour plaire à Madame Grandet,
il marquait parmi les jeunes gens de Paris qui mettent le plus de soin à leur toilette. « Tu as tort de te rajeunir, » lui disait son père. « Si tu avais 36 ans, ou du moins la mine revêche d'un doctrinaire, je pourrais te donner la position que je voudrais. » Tout cet ensemble de choses durait depuis 6 semaines, et Lucien se consolait en voyant que cela ne pouvait guère durer 6 semaines encore. Quand un beau jour, Madame Grandet écrivit à Monsieur Levenne pour lui demander 1 heure de conversation le lendemain, à 10 heures, chez Madame de Thémines. « On me traite déjà en ministre. Oh, position favorable !» dit Monsieur Levenne. Le lendemain, Madame Grandet commença par des protestations infinies. Pendant ces circonlocutions bien longues, Monsieur Levenne restait grave et impassible. « Il faut bien être ministre, » pensait-il, « puisqu'on me demande des audiences. » Enfin, Madame Grandet passa aux louanges de sa propre sincérité. Monsieur Levenne comptait les minutes à la pendule de la cheminée. « Surtout, et avant tout, il faut me taire. Pas la moindre plaisanterie sur cette jeune femme si fraîche, si jeune, et déjà si ambitieuse. Mais que veut-elle? Après tout, cette femme manque de tact. Elle devrait s'apercevoir que je m'ennuie. Elle a l'habitude de façon plus noble, mais moins de véritable esprit qu'une de nos demoiselles de l'opéra. » Mais il ne s'ennuya plus quand Madame Grandet lui demanda tout ouvertement un ministère pour Monsieur Grandet. « Le roi aime beaucoup Monsieur Grandet, » ajoutait-elle, « et sera fort content de le voir arriver aux grandes affaires. Nous avons de cette bienveillance du château des preuves que je vous détaillerai si vous le souhaitez et m'en accordez le loisir. » À ces mots, Monsieur Levenne prit un air extrêmement froid. La scène commençait à l'amuser. Il valait la peine de jouer la comédie. Madame Grandet, alarmée et presque déconcertée, malgré la ténacité de son esprit qui ne s'effarouchait pas pour peu de choses, se mit à parler de l'amitié de lui, de Levenne, pour elle. À ces phrases d'amitié qui demandaient un signe d'assentiment, Monsieur Levenne restait silencieux et presque absorbée. Madame Grandet vit que sa tentative échouait. « J'aurais gâté nos affaires, » se dit-elle. Cette idée la prépara aux parties extrêmes et augmenta son degré d'esprit. Sa position empirait rapidement. Monsieur Levenne était loin d'être pour elle le même homme qu'au commencement de l'entrevue. D'abord, elle fut inquiète, puis effrayée. Cette expression lui allait bien, et lui donnait de la physionomie. Monsieur Levenne fortifia cette peur. La chose en vint au point de gravité que Madame Grandet prit le parti de lui demander ce qu'il pouvait avoir contre elle. Monsieur Levenne, qui depuis 3 quarts d'heure gardait un silence presque morne, de mauvais présage, avait toutes les peines du monde en ce moment à ne pas éclater de rire. « Si je ris, » pensait-il, elle voit l'abomination de ce que je vais lui dire, et tout l'ennui qui m'assomme depuis 1 heure est perdu. Je manque l'occasion d'avoir le vrai tirando de cette vertu célèbre. Enfin, comme par grâce, Monsieur Levenne, qui était devenu d'une politesse désespérante, commença à laisser entrevoir que bientôt, peut-être, il daignerait s'expliquer. Il demanda des pardons infinis de la communication qu'il avait à faire, et puis du mot cruel qu'il serait forcé d'employer. Il s'amusa à promener la terreur de Madame Grandet sur les choses les plus terribles. Après tout, elle n'a pas de caractère, et ce pauvre Lucien aura là une ennuyeuse maîtresse, s'il l'a. Ses beautés célèbres sont admirables pour la décoration, pour l'apparence extérieure, et voilà tout. Il faut la voir dans un salon magnifique, au milieu de 20 diplomates garnis de leurs croix. Je serais curieux de savoir si, après tout, sa madame de Chastelet vaut mieux que cela. Pour la beauté physique, si j'ose ainsi parler, la magnificence de la pose, la beauté réelle de ses bras charmants, c'est impossible. D'un autre côté, il est parfaitement exact que, quoique j'aie le plaisir de me moquer un peu d'elle, elle m'ennuie, ou du moins je compte les minutes à la pendule. Si elle avait le caractère que sa beauté semble annoncer, elle eût dû me couper la parole 20 fois et me mettre au pied du mur. Elle se laisse traiter comme un conscrit qu'on mène battre en duel. Enfin, après plusieurs minutes de propositions directes qui portèrent au plus haut point l'anxiété pénible de Madame Grandet, M. Leven prononça ces mots d'une voix basse et profondément émue. « Je vous avouerai, madame, que je ne puis vous aimer, car vous serez cause que mon fils mourra de la poitrine. » « Ma voix m'a bien servi, » pensa M. Leven. « Cela est juste de ton et expressif. » Mais M. Leven n'était pas fait, après tout, pour être un grand politique auprès de personnages graves. L'ennui lui donnait de l'humeur, et il n'était pas sûr de pouvoir résister à la tentation de se distraire par une sortie plaisante ou insolente. Après ce grand mot prononcé, M. Leven se sentit saisi d'un tel besoin d'éclater de rire qu'il s'enfuit. Madame Grandet, après avoir remis le verrou à la porte, resta immobile près d'une heure sur son fauteuil. Son air était pensif, elle avait les yeux tout à fait ouverts, comme la Phèdre de M. Guérin au Luxembourg. Jamais ambitieux tourmenté par 10 ans d'attente n'a désiré le ministère comme elle le souhaitait en ce moment. Quel rôle a joué que celui de Madame Roland au milieu de cette société qui se décompose ! Je ferai toutes les circulaires de mon mari, car il n'a pas de style. Je ne puis arriver à une belle position sans une passion grande et malheureuse, dont l'homme le plus distingué du faubourg Saint-Germain serait la victime. Ce fanal embrasé m'élèverait bien haut, mais je puis vieillir dans ma position actuelle, sans que je voie cet événement devenir un peu probable. Tandis que les gens de cette sorte, non pas à la vérité de la nuance la plus noble, mais d'une couleur encore fort satisfaisante, fort suffisante, m'environneront dès que M. Grandet sera ministre. Madame de Vèze n'est qu'une petite sotte, et elle en regorge. Les gens sages en reviennent toujours au maître du budget. Les raisons se présentaient en foule à l'esprit de Madame Grandet pour la confirmer dans le sentiment du bonheur d'être ministre. Or, c'est ce qui n'était point en question. Ce n'était pas précisément ces pensées-là qui enflammaient la grande âme de Madame Roland à la veille du ministère de son mari. Mais c'est ainsi que notre siècle imite les grands hommes de 93. C'est ainsi que M. de Polignac a eu du caractère. On copie le fait matériel. Être ministre, faire un coup d'État, faire une journée, un 4 prairial, un 10 août, un 18 fructidor. Mais les moyens de succès, mais les motifs d'action, on ne creuse pas si avant. Mais quand il s'agissait du prix par lequel il fallait acheter tous ces avantages, l'imagination de Madame Grandet le désertait. Elle n'y voulait pas penser. Son esprit était aride. Elle ne voulait pas y consentir ouvertement, mais bien moins encore s'y refuser. Elle avait besoin d'une discussion oiseuse et longue pour y accoutumer son imagination. Son âme enflammée d'ambition n'avait plus d'attention à donner à cette condition désagréable, mais d'un intérêt secondaire. Elle sentait qu'elle allait avoir des remords, non pas de religion, mais de noblesse. Est-ce qu'une grande dame, une duchesse de Longueville, une madame de Chevreuse, eussent donné aussi peu d'attention à la condition désagréable ? Se répétait-elle à la hâte. Et elle ne répondait pas, tant elle pensait peu à ce qu'elle se demandait, tout absorbée qu'elle était dans la contemplation du ministère. « Combien me faudra-t-il de valets de pied ? Combien de chevaux ?» Cette femme, d'une si célèbre vertu, avait si peu d'attention au service de l'habitude de l'âme nommée pudeur, qu'elle oubliait de répondre aux questions qu'elle se faisait à cet égard, et, il faut l'avouer, presque pour la forme. Enfin, après avoir joui pendant 3 grands quarts d'heure de son futur ministère, elle prêta quelque attention à la demande qu'elle se répétait pour la 5e ou 6e fois.
Mesdames de Chevreuse ou de Longueville y eussent-elles consenti? Sans doute, elles y eussent consenti, ces grandes dames. Ce qui les place au-dessous de moi sous le rapport moral, c'est qu'elles consentaient à ces sortes de démarches par une sorte de demi-passion, quand encore ce n'était pas par suite d'un penchant moins noble, plus physique. Elles pouvaient être séduites, moi je ne puis l'être. Et elle s'admira beaucoup. Dans cette démarche, il n'y a que de la haute sagesse, de la prudence. Je n'y attache certes l'idée d'aucun plaisir. Après s'être sinon rassérénée tout à fait, du moins bien rassurée de ce côté féminin, Madame Grandet s'abandonna de nouveau à la douce contemplation des suites probables du ministère pour sa position dans le monde. Un nom qui a passé par le ministère est célèbre à jamais. Des milliers de Français ne connaissent des gens qui forment la première classe de la nation que les noms qui ont été ministres. L'imagination de Madame Grandet pénétrait dans l'avenir. Elle peuplait sa jeunesse des événements les plus flatteurs. Être toujours juste, toujours bonne avec dignité et avec tout le monde, multiplier mes rapports de toutes sortes avec la société, remuer beaucoup, et avant 10 ans, tout Paris retentira de mon nom. Les yeux du public sont déjà accoutumés. Il y a du temps à mon hôtel et à mes fêtes. Enfin, une vieillesse comme celle de Madame Récamier, et probablement avec plus de fortune. Elle ne se demanda qu'un instant, et pour la forme, « Mais Monsieur Leven aura-t-il assez d'influence pour donner un portefeuille à Monsieur Grandet? Mais une fois que j'aurai payé le prix convenu, ne se moquera-t-il point de moi? Sans doute il faut examiner cela. Les premières conditions d'un contrat sont la possibilité de livrer la chose vendue. » La démarche de Madame Grandet était combinée avec son mari, mais elle s'abstint de rendre compte de la réponse avec la dernière exactitude. Elle entrevoyait bien qu'il n'eût pas été décidément impossible de la mener à une façon raisonnable et philosophique et politique de voir les choses. Mais c'est toujours une discussion terrible pour une femme qui se respecte. « Eh ! » se dit-elle, « il vaut bien mieux la sauter à pieds joints. » Tout ne fut pas plaisir quand Lucien entra le soir chez elle. Elle baissa les yeux d'embarras. Sa conscience lui disait « Voilà la lettre par laquelle je puis être la femme du ministre de l'Intérieur. » Lucien, qui n'était point dans la confidence de la démarche faite par son père, remarqua bien quelque chose de moins guindé et de plus naturel, et ensuite quelques lueurs de plus d'intimité et de bonté dans la façon d'être de Madame Grandet avec lui. Il aimait mieux cette façon d'être, qui rappelait, de bien loin, il est vrai, l'idée de la simplicité et du naturel, que ce que Madame Grandet appelait de l'esprit brillant. Il fut beaucoup auprès d'elle ce soir-là. Mais décidément, sa présence gênait Madame Grandet, car elle avait bien plus les théories que la pratique de la haute intrigue politique, qui, du temps du cardinal de Retz, faisait la vie de tous les jours des Chevreuse et des Longueville. Elle congédia Lucien, mais avec un petit air d'empire et de bonne amitié qui augmenta le plaisir que celui-ci trouvait à se voir rendre sa liberté dès 11 heures. Pendant cette nuit, Madame Grandet ne put presque pas dormir. Ce ne fut qu'au jour que le bonheur d'être la femme d'un ministre la laissa reposer. Elle eût été dans l'hôtel de la rue de Grenelle que ses sensations de bonheur eussent été à peine aussi violentes. C'était une femme attentive au réel de la vie. Pendant cette nuit, elle eut 5 ou 6 petites contrariétés. Par exemple, elle calculait le nombre et le prix des livrées. Celle de M. Grandet était composée en partie de drap serin, lequel, malgré toutes ses recommandations, ne pouvait guère conserver sa fraîcheur plus d'un mois. Combien cette dépense ? Combien surtout cette surveillance allait être augmentée par le grand nombre d'habits nécessaires ? Elle comptait. le portier, le cocher, les valets de pied. Mais elle fut arrêtée dans son calcul. Elle avait des incertitudes sur le nombre de valets de pied. « Demain, j'irai faire une visite à droite à Madame de Vez. Il ne faudrait pas qu'elle se doutât que je viens relever l'état de sa maison. Si elle pouvait faire une anecdote de cette visite, cela serait du dernier vulgaire. Ne pas savoir quel doit être l'état de maison d'un ministre. Monsieur Grandet devrait savoir ces choses-là, mais il a réellement bien peu de tête. » Ce ne fut qu'en s'éveillant, à 11 heures, que Madame Grandet pensa à Leven. Bientôt elle sourit, elle trouva qu'elle l'aimait, qu'il lui plaisait beaucoup plus que la veille. C'était par lui que toutes ces grandeurs qui lui donnaient une nouvelle vie pouvaient lui arriver. Le soir, elle rougit de plaisir à son arrivée. « Il a des façons parfaites, pensait-elle. Quel air noble! Combien peu d'empressement! Combien cela est différent d'un grossier député de province! Même les plus jeunes, devant moi, ils sont comme des dévots à l'église. Les laquais dans l'antichambre leur font perdre la raison. »